tous les jours à 10h pendant le confinement. Journal de la peste par Aurélie Ruby.
Hier, en fait, je voulais parler de la situation des SDF durant cette crise et j'ai appuyé ma chronique donc sur une réécriture de Samuel Beckett, qui est un auteur franco-anglais qui a écrit pendant et après la Seconde Guerre mondiale, publié systématiquement aux éditions de Minuit, éditions liées à la résistance, qui circulait sous le manteau pendant la guerre. J'ai ouvert en attendant Godot, qui est une pièce de théâtre, et j'ai compris quelque chose que j'avais jamais compris dans cette pièce. Cette littérature, elle n'est pas facile. On emploie souvent le mot absurde pour la désigner. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu un grand amour pour Samuel Beckett très tôt. Et à 20 ans, n'ayant rien vécu de tragiquement politique, je ressentais pourtant profondément cette mélancolie du chaos dans ma chair. Je me demande si Samuel Beckett ne m'a pas appris à accepter la mort comme constituant de ma vie. Ou alors cette mélancolie me venait par atavisme de l'histoire de mes ancêtres, je sais pas. Mais je sais qu'hier, quand j'ai ouvert En attendant Godot, il y a quelque chose de l'ordre de l'humanisme, de la dénonciation des rapports de domination et de la pure absurdité que peut prendre parfois le réel, qui m'a sauté à la chair comme jamais, puisqu'avant, mon analyse en était peut-être avant tout intellectuelle. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'ai voulu quitter l'université, bref. Je me suis dit, en fait, Beckett a écrit ce qu'il voyait, ce qu'il sentait, et soudain, bah, c'était ça. Deux malheureux d'un autre temps, assistant incrédules à la naissance d'un nouveau monde qu'ils ne comprennent pas encore. Voilà comment j'ai écrit ma chronique hier, en projetant mon propre effroi sur ces dialogues. Moi qui ai mis des années à me débarrasser d'une littérature post-Seconde Guerre mondiale, qui avait des goûts de poudre pour enfin pleinement vivre ma vie de femme des années 2000, aujourd'hui trentenaire, libre du mieux qu'elle peut. Et bien finalement, c'est dans ces auteurs qui m'ont forgé que j'ai voulu brûler que je trouve du réconfort depuis une semaine. Je crois que j'ai fait face à une grande sensation d'inutilité, bon, partagée, je suppose, par beaucoup d'artistes du spectacle vivant, blablabla. C'est d'ailleurs certainement cette sensation qui m'a poussée à démarrer ces chroniques il y a une semaine, happée par le gouffre qui s'est inscrit, blablabla, que je n'ai pu expliquer, mais que je n'ai pu taire. C'était comme l'an zéro, celui de la destruction d'un monde, de la recréation d'un monde, blablabla. Face à la fermeture des salles de spectacle, blablabla, de tous les lieux qui accueillent la pratique théâtrale, des écoles. Oui, parce que par définition, l'art théâtral rassemble généralement plus de 10 personnes. Le théâtre, ça a à voir avec l'agora. L'agora, c'est la réunion de la cité, c'est la place publique. Et en un instant, la place publique s'est entièrement déplacée dans la virtualité de nos écrans. Je veux dire qu'avant, les réseaux sociaux avaient une importance qui me semblait parfois étrange ou démesuré, mais que soudainement, paf, ils deviennent l'unique agora restante. L'unique radeau de partage et de lien. Temporairement, on espère. Mais ce qui m'interroge, c'est qu'il n'y a soudainement plus aucun espace public qui met les dirigeants face au peuple. Ah, chacun est chez soi, certains à l'Élysée, d'autres dans des taudis, et les rôles restent figé, semble figé. Et là encore, j'ai pas pu m'empêcher de penser à l'importance de Facebook dans le conflit syrien. Les réseaux sociaux ont été le fer de lance de la révolution, un média par lequel s'est répandue la révolte comme un feu de joie. Puis il est devenu le lieu par lequel le régime a sévi, arrêtant systématiquement les jeunes dont les postes se voulaient révolutionnaires, se servant des photos des journalistes pour identifier les opposants. Puis la toile est devenue un cimetière, lorsqu'il était impossible d'assister aux enterrements par interdiction du régime. Puis le fil d'actualité Facebook est devenu une mosaïque de visages déformés, de corps torturés, cadavres abandonnés qui cherchaient leurs proches perdus dans les affres d'une guerre sans fin. Chaque jour, les réseaux sociaux charriaient des morts et des vivants retrouvaient leurs proches disparus sur la toile de leur effroi. De combien d'amis ont-ils appris le décès par une annonce faite sur la place publique de la virtualité ? La guerre ayant fait des dizaines de milliers d'exilés, familles décimées, éclatées aux quatre coins du monde, Facebook est devenu l'unique place publique d'un peuple sans pays et s'y jouait la vie quotidienne, les disputes, les polémiques, les fêtes révolutionnaires, les enterrements, les retrouvailles, les rencontres au peuple sans espace, l'illimité virtualité, au temps arrêté de l'histoire, l'écriture d'une humanité essoufflée. Alors, est-ce qu'on arrive au paroxysme de ce progrès si souhaité et si redouté ? Est-ce qu'on a vraiment fini par abolir l'espace ? Les rues du monde entier sont vides et les écrans sont surpeuplés. Chacun chez soi, dans l'intimité de sa chambre, sur la place publique à la fois, en même temps, comme une espèce de confusion étrange, comme une égalité difforme, car chez soi, c'est bien quatre murs. Quatre murs n'ont pas la même forme, la même hauteur, la même matière, que l'on soit ici, là, riche, pauvre, et finalement, bah, rien ne change, tout est dans le porte-monnaie. Mais l'illusion de cette abolition de l'espace et du temps, alors, comme le disait Kant, blablabla, des formes pures, de l'intuition sensible, l'espace, le temps. Alors, comment peuvent-ils exister encore uniquement dans la virtualité ? Si le temps et l'espace n'existent que par les phénomènes qu'ils provoquent, dans l'interaction que j'ai avec le réel qui m'entoure, alors, si j'ai plus aucune interaction avec autrui ou avec le monde, alors, est-ce que j'existe encore ? Par la pensée uniquement, donc l'espace aboli, puisqu'enfermé dans mon terrier, l'appel sur Skype, par exemple, que je vais faire avec ma voisine de palier, aura la même valeur que celui que je vais faire avec mon ami en Ukraine, ou en Libye, ou au Bangladesh. Donc en Ukraine, pas de chômage et tous les salaires sont figés. En Libye, double peine, virus et guerre civile. Et là, ils sont bien confinés. Et actuellement, ma voisine de palier ne m'est pas plus proche que mon amie au Bangladesh. Elles sont toutes deux comme moi dans la même situation d'épidémie mondiale. Elles appartiennent comme moi à la grande tribu des êtres humains confinés. Et nous regardons avec effroi et fascination la mutation agir. Nous avons bien aujourd'hui une sorte de culture unique et mondiale, et cette culture ressemble à l'Occident capitaliste. Alors est-ce qu'on a mené à bout l'entreprise de colonisation ? Est-ce que nous sommes notre propre pandémie ? Y a-t-il des réponses dans la Bible que je ne me résous pas à ouvrir par pure tradition anticléricale et puis parce que je pense qu'il faut écrire de nouveaux textes de référence et qu'il est trop simple de toujours replonger dans la parabole, certes la mieux écrite et la plus répandue, mais bien sûr les contes nous aident à penser. Mais sont-ils toujours les mêmes à déconstruire et à réécrire, à reconstruire peut-être ? Aujourd'hui, peut-être que le théâtre serait inutile parce qu'il ne peut se partager en présence. Peut-être qu'on se sent comme un personnage abandonné dans un théâtre vide, seul, auprès de la petite lumière qui reste le soir quand le théâtre ferme ses portes. Mais est-ce qu'on ne peut pas tout simplement se taire et prendre le temps du vide ? Mais faut-il se taire dans un moment où, au contraire, le silence peut durer trop. La rue n'est plus une scène, non plus, elle est devenue le spectacle. Donc l'inutilité, on la brandit comme le gage de la nécessité de l'existence de l'art et des artistes, l'inutilité face à la consommation, face au capitalisme, face à la pandémie, comme valeur liée à la pure présence, à la vie, à l'échange, à la capacité de réflexion, de discernement. Ce pas de côté fait par l'art, qu'on peut juger inutile, cette inutile nécessité s'est soudain transformée en un gouffre dans lequel le temps, l'espace semble avoir disparu. C'est une redéfinition de la situation dans laquelle chacun cherche à s'adapter. Mais tout ça est politique, et c'est bien de politique que nous avons besoin. Bien sûr, on s'adaptera. Paradoxalement, chacun se met à partager des livres, des vers, et tout ça se met à bercer l'oreille de ceux qui sont seuls. mais la parole politique. Il y a ceux qui sauvent des vies et ceux qui sauvent les âmes. En temps de peste, ce postulat est bien difficile à défendre, car la vie tient un fil à l'instant du dernier sursaut. Le poète, tapi dans son terrier, doit-il célébrer le courage des autres, s'engager dans l'action qui compte, prendre note et donner de l'époque une radiographie sensible? Le temps est ce qu'il a de précieux et l'espace intérieur est ce qu'il a à offrir. Plus tard, nous verrons s'il survit ce qu'il avait à en dire.
Journal de la peste par Aurélie Rubis.